On va tourner ensemble dans Exode 24, s'il vous plaît, pour se préparer à la lecture des Écritures. Exode 24, c'est bon? Tournez avec nous et on va écouter ensemble la lecture des Écritures.
Donc, Exode, chapitre 24, nouvelle édition de Genève. Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. » Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous obéirons. » Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. » Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits.
Merci, Judith. Alors, Paul, I will ask you to come and join me, please. Je vais tout de suite passer à l'anglais pour vous permettre de synchroniser si vous voulez aller vers... En fait, non, vous n'aurez pas le signal, la traduction. Je dis n'importe quoi. Paul, I think I'll introduce you in French, so you won't know what I'm saying.
Très bien.
I wanted to be just next to you, just to make sure that we... There you go. That's the man. Paul est un ami qui, en fait, il est pasteur dans une assemblée à Toronto, et on a eu le privilège de se connaître, premièrement, we've met first with Nine Marks, is that right? Yeah, eh? À travers un ministère qui s'appelle Nine Marks, et puis plus tard, on s'est retrouvés dans l'inauguration d'un organisme qui s'appelle la Coalition pour l'Évangile canadienne au Canada, et donc qui est l'équivalent de SOLA pour le Québec, mais vraiment au niveau canadien. J'ai eu le privilège de servir il y a quelques semaines, de prêcher à cette conférence-là. Et donc, Paul et moi travaillons sur ce concile. Et j'espère, au cours des prochaines années, avoir le privilège d'inviter quelques-uns des, des pasteurs qui servent avec moi sur ce concile, qui sont un peu partout au Canada. So I'm very happy to have you here this morning and lead us in the ministry of the Lord. Could you take just maybe 2 minutes and introduce yourself, about your family and ministry, and just give me 15 seconds to run and do the translation. All right? So go in French and manage.
En français. Frères et sœurs, je suis tellement heureux et reconnaissant d'être ici avec vous. Merci de m'avoir invité. J'aime votre pasteur. Il est devenu un bon ami à travers les années. J'aime prier pour lui et pour vous tous.
I love praying
je
for
suis
you
vraiment
all.
Reconnaissant pour cette église. Vous faites un bon
I thank the Lord for this
ici,
church, for your ministry
le
in Quebec.
À travers
the Lord glorifies himself
je prie
you.
Que vous continuez à grandir dans la dans
that
sa grâce
you will keep growing in his grace.
Que le Seigneur sauve de plus
and
en
that
plus
the Lord
de Québécois.
Would save more and more Quebecers.
Je prie qu'un jour bientôt la majorité des Québécois soient de croyants.
Most Quebecers would be
merci
Christian.
De l'invitation pour
thank you for the invitation.
À prêcher pour vous aujourd'hui, c'est un honneur pour moi.
It's an honor for me.
Je vais prêcher en anglais car ça m'a pris des heures et des heures à pratiquer ces quelques phrases en français. Je ne suis pas très intelligent. Je veux commencer par vous dire que je vous aimais et que je prie pour vous et je vous donne la salutation de la part de Grace Fellowship Church de Toronto. Que le Seigneur fasse grandir notre amour les uns pour les autres. Let's pray. Notre Père du ciel,
Heavenly Father,
que la méditation de mon cœur et la parole de ma bouche te soient agréables au Seigneur, mon rocher et mon sauveur. Amen. And now English.
Alors, passons à l'anglais.
If you have your Bible,
si vous avez vos Bibles,
Exodus,
ouvrez-les, s'il vous plaît, dans Exode 24.
Exodus chapter 24,
Exode 24
is a remarkable,
est un passage
unexpected,
remarquable, surprenant, choquant, un moment choquant dans l'histoire d'Israël.
Do you enjoy weddings?
Est-ce que vous appréciez les mariages?
I do too.
Moi, j'aime les mariages.
I love the whole thing.
J'aime tout.
Well, as long as it's not one of my daughters.
Tant que c'est pas une de mes filles qui se marie.
I do want my daughters to get married.
Je veux que mes filles se marient, mais c'est un autre sujet.
This chapter in Exodus
alors, ce chapitre dans Exode 24 est construit sur le modèle d'une cérémonie de mariage à partir de l'invitation jusqu'à la réception à la fin de la cérémonie. Il y a vraiment une logique et une progression évidente dans le passage. Et non seulement cela, mais si vous connaissez quelque chose concernant Jésus-Christ, vous allez voir et entendre des échos et des pointeurs, des indicateurs qui font référence à Jésus dans cet événement d'Exode 24. Mais nous y reviendrons un peu plus loin. J'aime bien résumer tout le récit de l'Exode en trois parties. Ce livre de l'Exode nous parle du Dieu qui sauve, du Dieu qui parle, et du Dieu qui réside, qui demeure. Et nous voyons tout cela dans ce seul chapitre. Alors, comme un mariage, ce chapitre commence avec une invitation. Nous voyons l'invitation au verset 1. Alors, il dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel, toi et Aaron. Venez et l'adorez. » Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas et le peuple ne montera pas. Alors, cet appel, cette invitation est lancée à Moïse de venir vers Yahvé avec des représentants nationaux.
Aaron et ses deux fils, Nadab et Abihu, qui vont être les premiers prêtres pour Israël, et 70 des anciens qui représentaient probablement les 12 tribus d'Israël. C'est une invitation à un service formel, à une assemblée formelle. Si vous avez déjà été invité, ou si vous étiez invité à rencontrer le président des États-Unis ou à un repas à la Maison-Blanche, vous sauriez, par la simple invitation, intuitivement, vous sauriez qu'il y a une étiquette, qu'il y a certaines manières d'agir. Tout le monde en Israël comprenait intuitivement que Dieu invitait ces hommes à un moment grandiose, important. Ils se sont installés au pied du mont Sinaï depuis plusieurs jours. Ils ont entendu le tonnerre, vu le feu au sommet de la montagne. Ils ont entendu les trompettes. Ils savent que le roi Yahvé est présent. Ils l'ont entendu de sa propre voix dire les termes, les mots des 10 commandements. Et à présent, Moïse redescend avec ses 10 paroles. Et donc, dans les chapitres 20 à 23, nous sommes présentés. Et puis, il y a cette invitation. Alors, quelle sorte d'invitation est-ce? C'est une invitation à la ratification d'une alliance. C'est une cérémonie de ratification d'une alliance pour ratifier, authentifier, rendre officiel un contrat entre Dieu et son peuple, entre deux parties. Alors, il y a deux parties, Dieu et son peuple. Pourquoi est-ce que nous tenons des cérémonies? Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas simplement les gens dire « Ben, on est mariés » Nous tenons des cérémonies pour formaliser cet engagement entre un homme et une femme. Ils entrent ensemble dans une alliance l'un avec l'autre. Alors, quand moi, je célèbre une cérémonie, je suis la procédure standard pour les mariages. Et la première chose que je fais, c'est que j'explique ce qu'est le mariage, quels en sont donc les termes de cette alliance. Et ensuite, je les invite à faire cette déclaration d'intention. C'est là qu'on demandera, est-ce que vous voulez vraiment te marier avec cet homme? Est-ce que tu désires vraiment marier cette femme? Et la bonne réponse, évidemment, c'est oui, je le veux. Alors, cet événement que nous trouvons dans Exode 24 suit le même modèle. Moïse lit les termes de l'entente de l'alliance à Israël et nous en trouvons ensuite l'explication. Alors, au verset 3, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Alors, ces paroles étaient les 10 commandements, les règles étaient toutes les applications de la loi qu'on trouve dans Exode 21:1. Voici les règles que tu placeras devant le peuple. Alors, après avoir entendu ces paroles et ces règles, Israël, comme nation, répond avec une déclaration d'intention. Elles ne se sont pas engagées encore, mais ils sont tout début de cette entente, et ils disent « Je le veux ». Ils communiquent leur intention d'entrer dans une alliance avec lui. Alors, à la fin du verset 3, on lit « Tout le peuple dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit ». Alors, tout ce qui suit, c'est la suite de la cérémonie. Le point 2, nous avons vu l'invitation, maintenant la cérémonie elle-même. Il y a 8 petites parties qui se retiennent bien dans cette cérémonie. La ratification de l'alliance. Alors, premièrement, les termes sont clarifiés au verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Alors, tout ce que Moïse avait dit, les 10 paroles, il les met maintenant par écrit. C'est une pratique normale pour une alliance, comme pour un contrat aujourd'hui. Nous aimerions tous que Nous aimerions tous traverser des alliances juste en serrant la main, mais notre mémoire est courte. Alors, il n'y a rien comme vraiment prendre le temps d'écrire l'engagement. Alors, Moïse écrit tous les termes de l'alliance. C'est ainsi que votre Bible a été formée. Il nous est souvent dit que nous suivons une tradition orale de ce qui avait été transmis d'une génération à l'autre. Mais Israël est un peuple qui écrivait. Merci Seigneur. Voilà une autre raison pour faire confiance à la Bible. Moïse écrivit ces choses à partir du chapitre 21 à 23. Ce sont les écrits de Moïse. Donc les termes sont spécifiés. L'autel est préparé. Alors, très tôt, Moïse se leva et prépara bâtir un autel au pied, très tôt le matin. Il y a une leçon ici pour nous. Quand Dieu vous appelle à faire quelque chose, faites-le rapidement. Amener des délais et le délai et remettre à plus tard et la désobéissance son cousin. Donc, il construit un autel comme il en avait été instruit en Exode 23, une pile de roches et de terre pour faire un sacrifice d'animaux. Abraham a construit un autel, Jacob a construit un autel, Isaac a construit un autel, maintenant Moïse, sur lequel ils vont sacrifier un animal. Je me demande pourquoi. Cet autel va être placé au centre de quelque chose. Donc, le troisième élément, c'est le mémorial qui va être construit. On trouve 12 piliers qui sont mis sur pied pour représenter les 12 tribus. Donc, des piles de roches qui représentaient les 12 tribus autour ou devant l'autel. On ne sait pas exactement. Mais quelle que soit la manière, elle devait signifier, communiquer, voici Israël, ces 12 mémorials, ces 12 piliers représentent les 12 tribus d'Israël. Et cet autel représente qui? Représente Yahvé, représente le Seigneur. Alors, le mémorial, et ensuite, les sacrifices sont faits. Quatrième élément. Alors, il dit, jeune homme, ils envoyaient des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Alors, on ne sait pas dans Exode 24 qu'est-ce que représentent exactement ces offrandes, mais plus tard, nous apprendrons que ces offrandes, ces sacrifices sont expliqués. Chacun représente, semble-t-il, deux choses. Et vous voudrez retenir ces deux éléments. Premièrement, l'offrande qui est brûlée. Alors, vous prenez l'animal et l'entièreté de la bête va être consumée sur l'autel. C'est une image qui représente une rédemption complète et une consécration entière de la victime. Une rédemption complète pour les péchés, qui paye pour les péchés des individus. Alors, prendre, que ce soit un agneau ou un taureau, le préparer, le couper en pièces, mais mettre toutes les pièces sur l'autel, représentait, communiquait, cet animal prend ma place et il paie la pénalité pour mes péchés. C'est une substitution, c'est une rédemption substitutive. L'animal meurt à ma place et cela efface toute ma culpabilité devant Dieu. Mais cela représente aussi une dédication complète, une consécration entière. C'est le seul sacrifice où toutes les parties de la victime sacrificielle sont brûlées. Et cela représente en quelque sorte que mes péchés sont rachetés et parce qu'ils sont rachetés, j'appartiens moi-même entièrement à Dieu. Je suis complètement tien à présent, je ne retiens rien. Rédemption complète, consécration entière. C'est l'offrande entièrement consumée par le feu. Ensuite, il y a l'offrande de paix ou l'offrande de communion, parfois appelé ainsi. Cette offrande, dans ce cas, tout le sang est retiré de la bête alors qu'il est sacrifié, qu'il est tué, et ensuite la viande est cuite pour être prête à manger. Ce n'est pas comme mon barbecue vendredi. Mon barbecue a pris feu et a brûlé mon steak. Mais dans cette offrande, toute la viande est cuite parce qu'elle sera utilisée pour un repas, un festin. Cette offrande représente deux choses, la colère et la miséricorde. Alors, l'offrande brûlée par le feu représente la rédemption pour la colère. Et l'offrande de paix représente, parle de la colère et de la miséricorde. Dans ce cas, l'offrande est en train de dire qu'une mort semblable arrive à qui que ce soit brisera cette offrande. Qu'une mort comme cela tombe sur moi si je brise l'alliance. Ainsi, Israël et Yahvé sont en train de dire l'un à l'autre que la colère, que la mort, que cette colère vienne sur moi si je brise l'alliance que nous avons ensemble, que nous faisons ensemble. Cela ressemble à l'alliance que Dieu fit avec Abraham dans Genèse 15, où il coupa des animaux en deux et Dieu traversa, passa entre les animaux. Et Dieu dit, voici qu'il se produise cela si je brise mon alliance avec toi. Alors, cela représente la colère, mais cela représente aussi la miséricorde. J'ai mentionné que le sang était retiré de l'animal, recueilli dans un vase, et une partie de ce sang serait répandue sur l'autel. Et cela représentait, symbolisait qu'Israël était pardonné pour ses péchés. Il y a une paix maintenant entre Dieu et eux. C'est une offrande de paix, de communion. Il y a la paix entre moi et Dieu. Alors, en répandant le sang sur l'autel, ils reconnaissent la miséricorde de Dieu à leur égard. Un autre est mort à notre place. Et la seule manière de s'approcher de toi, c'est par le sang. Le sang n'est pas seulement répandu sur l'autel, mais aussi sur les gens. Et cela représente qu'ils sont à présent couverts par le sang du sacrifice, du substitut. Dieu leur étend sa miséricorde et il accepte cet animal qui se substitue, qui a été substitué. Alors, la première de ces deux sangs répandus est ce qui suit. Les termes, l'autel, le mémorial, le sacrifice, à présent le sang, la moitié du sang qui est mis dans un bassin est conservé et l'autre moitié est versée sur l'autel. La colère et la miséricorde. Yahvé accepte qu'il doit mourir, ce qui est impossible. S'il brise l'alliance, ce qui est impossible aussi. Cela représente aussi la miséricorde. Yahvé retient sa colère parce qu'une propitiation a été faite. La colère pour le péché a été apaisée. Il y a eu un rachat de fait. Donc, le sang est versé sur l'autel. Mais avant cela, il y a quelque chose de très important qui se passe. Et c'est le sixième élément. Les termes de l'Alliance sont lus à nouveau. Ils ont été lus une fois, ils ont été écrits, ils sont lus une deuxième fois. Alors, verset 7, nous lisons qu'il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Alors, pourquoi doit-il le lire en présence du peuple? Mais réfléchissons à ce qu'ils s'engagent, ce qu'ils se préparent à faire. Ils entrent dans une alliance avec Yahvé et promettent de respecter tous les termes de ce contrat. Des chapitres 22-23, de les honorer parfaitement et que par le sacrifice qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de reconnaître que la pénalité pour enfreindre cette alliance, c'est la mort. Le sacrifice l'illustre bien. Peut-être que vous vous demandez pourquoi il y a des prédications dans les mariages. En partie, c'est simplement pour que chacun sache ce dans quoi il est en train de s'engager. Moïse est en train de s'assurer qu'Israël sait dans quoi il s'engage. Yahvé est en train de dire, c'est un engagement important. Tu dois être certain que tu sais ce que tu fais, ce dans quoi tu t'embarques. Cela est vrai aussi si tu t'engages à suivre Jésus, si tu soumets ta vie à Christ. C'est un engagement très sérieux. Tu es mieux de savoir ce que tu fais. Et septième élément, la nation accepte les termes de l'Alliance et dit « Tout ce que le Seigneur a dit, nous l'honorerons et nous serons obéissants. » Je ne peux pas déterminer si c'était de l'humilité ou de l'orgueil de faire cette déclaration-là. Ça pourrait être de l'orgueil. « Oui, pas de problème, aucune difficulté, on va observer tout ce que tu nous dis. » Mais ça pourrait être aussi de l'humilité, vraiment. Nous allons faire tout ce que nous pouvons. Tu es Dieu, nous ne sommes pas Dieu, on n'a pas d'autre option. Je ne suis pas capable de déterminer s'ils ont été prétentieux ou humbles. Mais regardons à présent le dernier élément. Le sang est répandu sur le peuple. Premièrement, sur l'autel, à présent, tu te tiens là et il envoie, il gicle du sang sur le peuple, vers le peuple. Qu'est-ce que cela représente? Alors, ayant entendu les termes de l'Alliance et accepté les termes de l'Alliance, ce sang versé sur eux représente la colère et la miséricorde. En envoyant du sang sur eux, ils sont en train de dire que la mort survienne sur nous, ton peuple, si nous brisons ton alliance. Cela représente aussi la miséricorde. Nous appuyons seulement sur la mort du substitut comme moyen d'entrer dans cette alliance. Nous reconnaissons la nécessité de ce sacrifice pour notre alliance. Donc, il y a une rédemption qui est pratiquée, une consécration entière. Puis au verset 8, Moïse lança le sang, gicla le sang sur le peuple et dit, « Voici le sang de l'Alliance que le Seigneur a fait avec vous, selon ses paroles. » Et avec cela, la cérémonie est complétée. Qu'est-ce qui suit à présent devrait vous émerveiller? Le repas. Le festin de l'Alliance. Il est habituel dans presque toutes les cultures qu'un festin, une réception, suive un mariage. Alors, Dieu termine cette cérémonie avec un repas. 74 hommes choisis ont probablement monté avec la viande, avec du vin probablement et du pain. Ils ont monté à un endroit pour faire un pique-nique désigné sur le mont Sinaï. Que savons-nous sur le mont Sinaï? Si vous avez lu Exode, vous saurez qu'au chapitre 19, il y a quelque chose d'étrange. Moïse constamment monte et descend la montagne, monte et descend la montagne. Chaque fois qu'il monte, Dieu lui dit, « Redescends et va avertir Israël de rester loin. » Puis il remonte. Puis Dieu lui dit encore, « Descends, dis à tout le monde de rester loin de la montagne. » Pourquoi? Dans Exode 19, verset 13, il dit, « Aucune main ne doit toucher Moïse, autrement cette personne sera tué avec une flèche ou à la pierre. Si c'est un animal, il devrait mourir aussi. » Verset 21, chapitre 19, « Moïse descend, fait au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périsse et que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient de peur que l'Éternel ne les frappe. » Alors, lorsque Dieu descend sur la montagne et qu'il y a les éclairs, le tonnerre, la fumée et que Dieu parle, tout le monde dit à Moïse, « Toi, tu nous parles à présent et nous écouterons, mais ne permets plus à Dieu de nous parler, autrement nous en mourrons. » Nous en mourrons. Ils sont terrifiés. Et Dieu dit à présent, « Venez. » Vous, tous les 74. Et ils sont en bas et disent, on ne veut même pas s'approcher du pied de la montagne. Et tu veux que nous montions sur cette montagne? Le message a toujours été, restez loin, restez loin, restez loin. Et dans Exode 24, à présent que vous avez fait ce sacrifice, approchez-vous. Quand est-ce la dernière fois que vous avez eu vraiment peur? Ils font des travaux à notre église. Et l'autre jour, toutes les lumières extérieures ne fonctionnaient pas et nous quittions tard le soir et je savais que mon pasteur associé était derrière moi. Alors, je me suis caché derrière un arbre et j'ai attendu qu'il arrive et j'ai fait la marche du zombie. Et il a sauté comme une petite fille. C'était extraordinaire. J'ai eu tellement peur. Quand est-ce la dernière fois que vous avez eu vraiment peur? Imaginez monter cette montagne qui tremblait par la présence de Dieu et de voir ce qu'ils ont vu. Verset 9. Moïse, Nadab et Abihu, Aaron, montèrent et ils virent le Dieu d'Israël. Ils ont vu Dieu. Sous ses pieds, il y avait un ouvrage saphir transparent comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Ils virent Dieu dans la présence de Dieu sans mourir. Dieu ne les a pas frappés. Ils ont mangé et bu avec Dieu. C'était une pratique habituelle pour deux parties qui s'engageaient dans une alliance de partager un repas. On peut lire à ce sujet dans Genèse 26, lorsqu'Isaac fait alliance avec Abimélec de Guérar. Une fois que les termes se sont entendus, alors Isaac fit leur fit un festin. Ils mangèrent et burent. Et on peut le comprendre lorsque deux gens puissants font alliance. Mais ici, vous avez Dieu et 74 hommes. Comment cela peut-il être? Cela peut être et rendu possible parce que c'était le but précis du livre de l'Exode et de l'Exode, amener le peuple de Yahvé, le peuple de Dieu, dans une relation sécure avec lui, faire la paix entre eux et Dieu et les faire rentrer dans une communion avec Dieu. Et ce moment est venu. Ils se sont approchés de Dieu, ont vu Dieu et ne sont pas morts. Alors, ce qui suit est les termes de l'alliance sont mis sur une pierre, les 74 redescendent après le repas. Moïse est invité à remonter avec Josué pour aller chercher la copie écrite de l'alliance. Il y aura deux copies identiques avec les 10 paroles écrites sur deux pierres. Au verset 12, Dieu dit, « Monte vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites. » Moïse se leva avec Josué, qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Et il dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et eux resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. » On doit se rappeler de ceci. Mais revenons à Moïse pour commencer. Le médiateur est établi. Moïse va se rendre là où aucun homme n'oserait aller. Il est entré dans la présence de Dieu et la nuée, la gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Et le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Pardon. Non seulement un feu, mais un feu dévorant qui s'installe au sommet de la forêt, de la montagne. Et il y a cette nuée qui indique la présence de Dieu, cette nuée de feu pendant 6 jours. Moïse et Josué sont au sommet, à la base de la montagne, il y a Aaron, Nadab, Abihu et les 70, et tout le monde attend. Et le 7e jour, une voix, Moïse, vient, entre dans la nuée. Est-ce que vous avez remarqué que lorsque les 70 ont vu Dieu, tout ce qu'ils ont pu dire ensuite, c'était une déclaration simple du plancher où se tenait Dieu, verset 10. Il y avait à ses pieds un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Et peut-être que tout ce qu'ils pouvaient rapporter était ce qu'ils ont vu au pied, parce que c'est tout ce qu'ils ont osé regarder. Lorsqu'ils ont regardé à Dieu, il semble, j'ai l'impression qu'ils ont regardé surtout à ses pieds. Mais Dieu choisit un médiateur, un qui est appelé par Dieu pour se tenir entre lui et la nation, comme médiateur qui va apporter son message au peuple et qui représentera le peuple auprès de Dieu. Et ce médiateur, Moïse, marche et entre dans la présence même de Dieu lui-même. Voilà, bien-aimé, le climax de l'Exode. Dieu réconcilie son peuple, il les sauve, il entre dans une alliance avec eux. Et à présent, à travers leur médiateur, leur représentant, il les amène tous jusqu'à lui. Ses représentants peuvent manger avec lui. Son médiateur peut parler avec lui, comme il avait promis qu'il le ferait lorsqu'il a dit, « J'ai entendu vos complaintes, je vais garder mes promesses faites à votre père Abraham, je vais vous racheter, vous libérer, et je serai votre Dieu. » Exode 19, verset 4. Vous avez vu de vos propres yeux ce que j'ai fait au peuple d'Égypte et comment je vous ai transporté sur des ailes d'aigle, comment je vous ai amené à moi. À présent, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez mon trésor précieux. Parmi tous les peuples de la terre, vous serez mien. Car toute la terre m'appartient, mais vous serez un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Et voilà ce moment qui se réalise sous nos yeux. Moïse entre dans la nuée, verset 18, et alors que Moïse était sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Juste un peu plus. Un petit peu plus d'un mois, en fait. Jusqu'à ce que Moïse redescende. Pour trouver son frère Aaron et ses fils et tous les anciens qui, il y a un peu plus d'un mois, avaient vu Dieu et mangé avec le vrai Dieu, et à présent, ils sont en train de conduire toute la nation dans une orgie d'ivresse où ils sont en train d'adorer un veau qu'ils ont formé de leurs mains et qu'ils appellent Yahvé qui nous a fait sortir d'Égypte. Ils sont en train d'offrir leurs offrandes de paix, leurs offrandes consumées par le feu, un veau d'or. Nous sommes brisés comme êtres humains. Voilà pourquoi nous avions besoin d'une meilleure alliance. Adorer un veau d'or n'est pas ce pour quoi nous avons été créés. Avant la grande malédiction de Genèse 3, l'être humain venait dans la présence de Dieu, dans une communion parfaite. Mais quelque chose s'est produit. Dans Genèse 3, 8, nous lisons, « Ils ont entendu la voix de Dieu et l'homme et la femme se cachèrent loin de la présence de Dieu. » Pourquoi se sont-ils cachés, Adam et Ève? Pourquoi durent-ils se cacher de la présence de celui qui est le plus agréable, l'être le plus agréable, le plus merveilleux de l'univers? Parce qu'ils avaient honte. Ils s'étaient rebellés contre ce bon Dieu. Ils ont pris le fruit défendu et ont entraîné toute notre race dans la culpabilité. Et si vous ne croyez pas que nous avons hérité de cette nature pécheresse, si vous doutiez de cela jusqu'à présent, certainement Exode 24 vient vous faire la démonstration. Ces hommes ont vu Dieu. Et un mois plus tard, ils sont en train d'appeler un veau d'or fait de leurs mains par son nom. La communion que nous avons connue dans le Jardin d'Éden ne pouvait être restaurée par le mont Sinaï parce que nos cœurs demeurent brisés. Nous avions besoin d'un meilleur sacrifice, d'une meilleure alliance. Et ce sacrifice et cette alliance sont venus dans la personne de Jésus-Christ. Dans Hébreux, chapitre 9, verset 19, vous pouvez tourner avec moi, car tous les commandements de la loi, il a pris le sang des taureaux avec de l'eau et il a versé sur le livre et sur le peuple, disant, « Ceci est le sang de l'Alliance que Dieu a commandé pour vous. » Verset 22, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié par du sang et sans effusion de sang. Il n'y a pas de pardon. » Cet auteur du livre aux Hébreux fait une comparaison. Il fait le point, il argumente du plus petit au plus grand. Donc, du mont Sinaï jusqu'à ce que Christ a accompli, verset 24. Mais Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'homme, qui est une imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même à plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert à plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il est apparu une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice, comme il est réservé aux hommes. Excusez-moi. Alors, comme Christ a offert sa propre vie en sacrifice, représentait, englobait, et faisait ce qu'aucun sacrifice précédent ne pouvait faire. Il a pris toute notre culpabilité à jamais. Voilà la bonne nouvelle. Son sacrifice était suffisant pour nous transformer de l'intérieur. Et c'était suffisant pour contracter une nouvelle alliance. Hébreux 8, 6. Christ a obtenu le ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, la première alliance avait été, si elle avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Parlant d'une nouvelle alliance, il rendit la première sans effet. Et ce qui est ancien est prêt de disparaître, et nous avons une nouvelle alliance avec un nouveau médiateur. Ainsi, juste avant de mourir, Jésus dit à ses disciples, il leur dit, abandonnez tous ces anciens sacrifices et remplacez-les par une seule cérémonie toute simple, réservée pour un certain groupe de personnes qui ont été rachetées, où nous prenons du vin et nous partageons, répétant les paroles du Seigneur. Ceci est mon sang de l'Alliance versé pour plusieurs. C'est une autre cérémonie où Christ, notre Dieu, est présent. Il est présent au milieu de nous, invisible. Symboliquement, ce festin nous permet de nous rappeler que son sang, non le sang des taureaux, nous nous rappelons que son sang qui rend réelle toute rédemption. Il est mon substitut. Il est mort pour mes péchés à ma place. C'est un sang qui dit une consécration entière. J'ai été racheté à un prix. Je ne m'appartiens plus. J'appartiens entièrement à Dieu. Je suis entièrement à lui. C'est un sang qui dit la colère a été détournée. Toute la juste colère de Dieu pour mes péchés a été payée par son sacrifice. C'est un sang qui dit que la miséricorde m'a été accordée, son sacrifice a été suffisant, je suis couvert par son sang. Tout le peuple de Dieu sont couverts par le sang de Christ éternellement. Et nous disons, heureusement pour nous. Rien ne peut laver ce sang qui nous a purifiés. Le péché ne peut pas enlever la marque du sang purifiant de Christ sur nous. Chaque fois que nous prenons le repas du Seigneur, Non seulement nous regardons à ce que Christ a fait, mais nous regardons aussi à ce que Christ va faire. À la fin de ce premier repas que Jésus prit avec ses disciples, il dit à ses disciples, « En vérité, je ne prendrai pas le fruit de la vigne avant le jour où je le prendrai dans le royaume de Dieu. » Quel jour s'agit-il? Le jour du jugement final. Le jour où Dieu amènera à lui tous ceux qui sont de son peuple pour entrer dans ce festin, cette fête éternelle, cette réception de toutes les réceptions, le mariage de l'agneau, les noces de l'agneau. Alors, dans Apocalypse, les noces de l'agneau sont arrivées, son épouse est préparée. Et l'ange lui dit, « Bénis soient ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. » Et il me dit, « Voici les paroles de Dieu. » Oui, elles sont les paroles de Dieu. Oui, bénis sont ceux qui sont invités. Parce qu'un jour viendra, bien-aimé, où la vision de Jean se réalisera. Il a dit dans Apocalypse 21:3, « Et j'entendis une voix du trône qui dit, « La présence de Dieu est avec les hommes. Il habitera au milieu d'eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux comme son peuple, comme son Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de larmes, il n'y a plus de souffrance, car les choses anciennes sont passées. » Vous voyez, en raison d'un autre sacrifice, nous attendons un autre festin sur une autre montagne, dans un autre jour, avec le même Dieu qui sera notre Dieu entièrement, à jamais. Amen. En ce jour, nous dirons, « Au revoir, péché. Fini les échecs. Adieu les larmes. Simplement la communion entière, douce, aux pieds de notre Seigneur. » Apocalypse 22, 20. « Celui qui témoigne de cela dit, « Je viens bientôt. Amen. Viens bientôt. Parce qu'alors, nous serons au trône de notre Seigneur. Et nous regarderons les uns aux autres et nous regarderons à lui et nous dirons les uns aux autres, il a fait des choses extraordinaires. Car il m'a amené ici. Est-ce que tu seras à ce festin? Ami, viens au festin. Viens et appartiens à Christ. Ou est-ce que tu es en train de fabriquer tes idoles de veau d'or pour adorer? Est-ce que tu ne vois pas qu'il n'y a pas d'espoir pour toi si tu ne te réconcilies pas avec Dieu avant le jour du jugement? Dieu place devant toi et t'invite à ce festin. Mais tu seras comme ces hommes qui ont vu Dieu et qui allèrent en enfer si tu ne viens pas par celui qui est plus grand que Moïse, ce médiateur final, notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul a écrit, « Il y a un Dieu et il y a un médiateur entre Dieu et les hommes. » Ce n'était pas Moïse. C'était Jésus-Christ l'homme qui a donné, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, qui est le témoignage rendu en son temps, une rançon pour tous. C'est une bonne nouvelle si tu n'es pas chrétien. Parce qu'il a s'est donné lui-même en rançon pour tous, pour des gens de toute race, hommes, femmes de tout âge, anglophones, francophones, canadiens, handicapés, athlétiques, intelligents, insensé. Dieu accueillera chacun si tu viens te mettre à l'abri dans les bras de Christ. Christ est ton médiateur. Il donne sa vie en rançon et personne ne vient à Dieu si ce n'est par Christ. Alors, cher ami, repens-toi de tes péchés et mets ta confiance en Jésus-Christ. Et alors, tu chanteras les chants, les paroles du psaume 36 avec nous. Combien est précieuse ta fidélité. Les fils des hommes prennent refuge à l'ombre de tes ailes. Ils se réjouissent dans l'abondance de ta maison et tu les remplis de ta grâce, car en toi est la fontaine de la vie. Dans ta lumière, nous voyons la lumière aussi. Viens à Christ et tu viendras à Dieu à jamais. Que ce soit le cas pour toi en Dieu. Prions. Alors, Père, nous demandons que par ta miséricorde, chaque âme présente ce matin quitte ce lieu, sachant avec certitude qu'ils seront au jour des noces de l'agneau avec toi. Ô Seigneur, que cela se fasse pour ta gloire, pour ton honneur. Amen.